Bonjour à vous tous, bienvenue. Aujourd'hui, on prend un cocktail avec le barman de l'hôtel Majestic à Cannes, en plein festival. Ensuite, nous allons rencontrer un jeune homme qui veut absolument faire revivre le Minitel. Et enfin, on termine avec une visite du plus petit village fortifié de France. Mais avant, place à l'actu de ce mercredi 22 mai. Bonjour Denis Farou.
Bonjour Frédéric Letournier, bonjour à tous.
Diesel ou essence, les automobilistes se posent des questions.
Certains qui avaient lâché le diesel pour l'essence sans plomb regrettent parfois leur choix à l'Iskachaner.
C'est le résultat étonnant d'une étude du journal L'Argus. Malgré les primes à la conversion et les mesures dissuasives, le diesel a encore de beaux jours devant lui.
Les demandes d'informations sur les directives de fin de vie se multiplient ces derniers jours.
L'affaire Vincent Lambert a déclenché le phénomène. La ministre de la Santé incite les Français à faire connaître leurs souhaits.
61% des Européens sont satisfaits de l'adhésion de leur pays à l'Union Européenne.
Des Européens, pas des Français, Nicolas Ballu.
Oui, parce que les Français sont plutôt en queue de peloton. Les Espagnols ou les Portugais sont beaucoup plus europhiles, par exemple.
La Poste imagine des résidences pour seniors dans des bâtiments existants de centre-ville.
Une nouvelle action en direction des personnes âgées, après déjà des facteurs qui assure des victimes des visites à domicile.
Le foot aujourd'hui, c'est aussi du baby-foot.
Avec des figurines de joueuses aux côtés de joueurs pour le foot de table, comme disent les compétiteurs.
Alors baby-foot ou foot de table, bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Letournier, Denis Farou sur France Bleu.
Et on commence sur la route au volant d'une voiture diesel ou essence.
D'après une enquête du journal L'Argus, 70% des automobilistes qui sont passés à l'essence ces trois dernières années trouvent qu'ils consomment trop et un tiers d'entre eux souhaitent passer ou repasser au diesel à l'Iskachaner.
Oui, Denis, si on en croit cette étude, le diesel a encore de beaux jours devant lui. Ça peut paraître étonnant car à l'achat, une voiture diesel est plus chère. D'autre part, les mesures dissuasives se multiplient. On parle d'interdiction dans les centres-villes. Et puis, il y a ces taxes sur le gasoil qui sont de plus en plus lourdes. Si bien que l'an prochain, à la pompe, il n'y aura plus d'écart de prix entre le diesel et l'essence.
Oui, mais alors comment expliquer qu'il y ait des nostalgiques du diesel?
D'abord, les moteurs à essence consomment jusqu'à 20% de plus. C'est mécanique. Le sans-plomb a une densité énergétique plus faible. Donc, quand vous faites plus de 20 000 km par an et de l'autoroute, pour votre porte-monnaie, c'est plus intéressant de rester au diesel. L'autre raison, c'est le succès des SUV. Vous savez, ces berlines qui ressemblent à des 4x4. Elles ont de grosses roues, sont plus larges, plus hautes, donc moins aérodynamiques et surtout, elles sont très gourmandes en énergie. Donc là encore, les automobilistes vont préférer investir dans le diesel.
Très bien, on a compris. Et l'écologie dans tout ça?
Oui, il y a une bonne nouvelle quand même. Dans cette étude, 20% des déçus de l'essence envisagent d'acheter une voiture hybride ou électrique. Alors oui, ces véhicules sont plus chers à l'achat, mais entre les primes à la conversion et les économies de carburant, ça peut être une bonne option sur le long terme, surtout pour les petits rouleurs et les déplacements en ville.
Merci pour toutes ces précisions, Alice Cachaner.
British Steel, le repreneur britannique de l'aciériste français Ascoval, a été placé en liquidation judiciaire.
Le plan de reprise d'Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord n'est pas remis en cause selon Bercy, mais on veut bien quand même des précisions sur ce dépôt de bilan. Antoine Gignot.
Absolument, ce dépôt de bilan, ce sont les représentants syndicaux qui l'annoncent et ils lancent un appel à l'aide. 5000 emplois pourraient disparaître au Royaume-Uni, 20 000 avec les sous-traitants. Il y a aussi effectivement la question des salariés basés à l'étranger, aux Pays-Bas et en France, dans l'usine d'Ascoval. Pour l'instant, les hauts fourneaux continuent de fonctionner, les salaires continuent d'être payés, mais le groupe passe sous administration de l'État britannique en attendant de trouver un repreneur. L'incertitude liée au Brexit a fait baisser les commandes de près de 25% dans l'usine de Scunthorpe, qui produit les rails de chemin de fer. La chute de la livre sterling a fait augmenter le prix des matières premières et la facture correspondant aux émissions de dioxyde de carbone a, ces dernières semaines, précipité le groupe vers la faillite. Après un premier emprunt de 150 millions d'euros à l'État, British Steel demandait 35 millions supplémentaires pour éponger ses dettes, rallonge refusée par le gouvernement.
Antoine Gignot à Londres après la liquidation du repreneur d'Ascoval.
Une religieuse franco-espagnole de 77 ans, membre d'une communauté de Lavor dans le Tarn a été retrouvée assassinée en Centrafrique.
Sœur Inès Nieves Sancho a été retrouvée décapitée dans le village où elle enseignait la couture à des jeunes filles. Elle était en mission depuis plusieurs années dans l'ouest de la Centrafrique.
Un CRS a été renvoyé aux assises pour y répondre d'un lancer injustifié d'une grenade de désencerclement. Un manifestant avait perdu un œil, c'était en 2016.
Le syndicat Unité SGP Police dénonce une décision politique et réclame une juridiction spécialisée pour juger les policiers avec des professionnels. Pour la victime, syndicaliste Sud Santé, ce renvoi aux assises est une vraie reconnaissance de la mutilation dont il a été victime.
L'histoire de Vincent Lambert, dont les les traitements pour le maintenir en vie ont repris hier, ont mis en lumière les directives anticipées.
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, invite les Français à faire connaître leurs souhaits concernant leur fin de vie pour éviter les drames que l'on connaît. Et de fait, les demandes d'informations se sont multipliées par 25 ces deux derniers jours.
On peut écrire sur un papier ou avec un formulaire ses souhaits et les confier à des proches ou à son médecin.
Alain a 74 ans, il vit à Orthez, il a rempli sa directive anticipée il y a 2 ans. Pour éviter à ses proches une décision difficile.
C'est surtout pour protéger mes proches. J'avais pas envie qu'ils soient obligés de venir prendre des décisions et surtout être tenu de poursuivre des visites à quelqu'un qui est une sorte de légumes vivants, enfin de voilà. Je voulais absolument que ce qui se passe aujourd'hui pour l'affaire Vincent Lambert ne se produise pas pour moi. Le modèle, c'est je sous-signais, rédige mes directives anticipées pour le cas où je ne serai pas en mesure de m'exprimer au moment de la fin de ma vie. Voilà. Donc je refuse tout ce qui est acharnement. Il faut les prendre quand on est bien, justement. Et puis surtout, c'est d'être capable de parler de la mort, parce que la mort, à mon avis, fait partie de la vie, donc on n'y pense pas, et ce n'est qu'au dernier moment, c'est toujours quelque chose qui est un peu effrayant, alors qu'il faut, la mort, à mon avis, il faut l'amadouer, il faut en parler, ça fait partie de notre destinée à tous, donc c'est pas quelque chose à éviter.
On trouve des modèles de directives sur le site du ministère de la Santé ou de Service Public France, c'est à remplir, dater et signer.
Deux débats sur France 2 ce soir, un autre sur Internet en fin d'après-midi. Les candidats aux européennes vont tenter de mobiliser un électorat encore peu concerné.
Pour les intentions de vote, si les chiffres des sondages se confirment, seuls 5 des 34 listes dépasseraient le seuil de 5% qui permet d'envoyer des députés à Strasbourg et à Bruxelles.
Pour la participation, on est pour l'instant dans les intentions de se déplacer entre 46 et 52%.
Il y a quand même des raisons d'espérer à propos de l'Europe quand on regarde par exemple le dernier Eurobaromètre du Parlement européen. 61% des Européens considèrent positivement l'adhésion de leur pays à l'Union, un chiffre que l'on n'avait pas vu depuis les années 90, avec évidemment des disparités selon les pays, Nicolas Ballu.
Oui, vous savez, ce sentiment d'appartenance, il se forme à partir de plusieurs facteurs. L'impression qu'on bénéficie de cette appartenance à l'Union déjà, et puis il existe une composante historique également. Exemple, l'Espagne et le Portugal, ce sont peut-être les pays les plus europositifs. L'identité de l'Espagne aujourd'hui s'est construite contre l'Espagne de Franco et ils n'en sont sortis qu'au milieu des années 70. La prospérité aussi est associée à l'Union européenne. C'est semblable pour le Portugal. Autre pays particulièrement europhile, l'Irlande, les pays baltes également. Et ce qui peut sembler surprenant, c'est que nombre de pays d'Europe centrale ou de l'Est partagent un sentiment globalement favorable à l'Europe.
Même dans des pays comme la Hongrie?
Oui, à la question « Pensez-vous que l'appartenance de votre pays à l'Union européenne est une bonne chose ?» La réponse est oui à 61%. Seuls 7% pensent qu'il s'agit d'une mauvaise chose. La population hongroise n'est pas eurosceptique.
D'accord, mais les Français alors.
Eh bien, ils sont plus eurosceptiques que les Hongrois. 54% des Français ont répondu oui. La France arrive en queue de peloton.
L'Europe n'est quand même pas eurosceptique.
Bah, hélas, c'est plus compliqué que ça. Il faut se méfier. D'abord parce que alors tous les Européens n'ont pas la même vision de ce qu'est l'Europe, mais surtout parce que la moitié des sondés estiment que l'Europe va dans la mauvaise direction. Enfin, par rapport au baromètre précédent, c'est un gigantesque point d'interrogation qui se dégage. On voit surtout les indécis qui la part des indécis qui augmentent largement.
Merci Nicolas Ballu.
Ça bouge encore avec la poste, toujours en direction des personnes âgées.
Après les facteurs devenus visiteurs à domicile, le groupe envisage de recycler des bâtiments existants de centre-ville en résidence pour seniors. 14 hôtels de la poste ont déjà été identifiés, Faustine Moheran.
Les postes de Perpignan, Metz, Brest, Roubaix, Alençon, Annecy aussi, entre autres, ont été identifiés. Elles sont assez grandes, 5000 m² et assez vides désormais pour être transformées en, je cite, résidence non médicalisée pour seniors actifs. En clair, chacun aura son appartement, mais pourra aussi profiter de la cantine, des activités, d'une blanchisserie peut-être, et de services de petit dépannage, de l'aide informatique par exemple. Le tout en plein centre-ville pour aller facilement au cinéma ou faire ses courses. Un projet très intelligent pour Pascal Chanvert, président de l'ADEPA, l'association des directeurs d'établissements pour personnes âgées.
C'est pour nous à l'ADEPA probablement l'avenir de l'aide aux personnes âgées, à condition que la poste ne se pose pas comme un opérateur supplémentaire en concurrence avec les autres, mais qu'il soit vraiment dans une logique de coopération, sera bien plus profitable pour les stratégies du groupe La Poste.
Sur le papier, c'est donc une très bonne idée, mais chacun son métier, prévient le professionnel, et nos aînés seront bien gardés.
Merci. Faustine Moheran, La Poste a lancé des appels à projets, on aura des précisions au mois de juillet.
Les pavillons bleus sont arrivés avant la saison d'été. Ils récompensent chaque année les communes, les plages, les ports de plaisance et les lacs pour la qualité de l'eau, la gestion des déchets et l'éducation à l'environnement.
Les 295 labellisés de l'année sont sur francebleu.fr. Vous pouvez vérifier ce qu'il en est dans votre région.
13h10 sur France Bleu, la suite d'une heure en France, ce sera avec du foot, du baby-foot.
Très bien.
À l'approche de la Coupe du Monde féminine en France qui débute le 7 juin, on découvre un baby-foot mixte avec des hommes et des femmes dans les deux équipes. C'est une ancienne joueuse qui est à l'origine de ce nouveau baby-foot, plus en phase avec son époque. Mais avant, la retraite a sonné, cela c'est pour un entraîneur.
Celui de Saint-Etienne, Jean-Louis Gasset, à 65 ans, il ne rêve pas d'un nouvel horizon, un nouveau départ, il souhaite juste s'arrêter pour souffler. S'occuper de sa maman presque centenaire et de ses petits-enfants.
J'ai pris la décision de rentrer chez moi. Ma mission est terminée. Personnellement, je finis rincé parce qu'il y a une pression ici qui est très très forte. Et quand on arrive à un âge un peu mûr, on se demande quelle est la priorité de sa vie. Et aujourd'hui, j'ai choisi la famille. Je remercie les joueurs, bien sûr. Je remercie le staff. Et surtout, je veux remercier ce public qui, une fois de plus contre Nice, nous a encore bouleversé et nous a donné la chair de poule. J'étais venu pour accomplir une mission et je pense que avec Ghislain, on a remis Saint-Etienne là où il doit être.
L'entraîneur des Verts qui part à la retraite avec Alexandre Vaud de France Bleu Saint-Etienne-Loire. Vous avez remarqué, Frédéric, que c'est une page qui se tourne à Saint-Etienne.
Évidemment. Hein,
avec Jean-Louis Gasset qui s'en va après avoir qualifié les Verts pour une Coupe d'Europe et avec Dominique Rocheteau, le directeur sportif, qui lui aussi a fait valoir ses droits à la retraite à 65 ans. Rocheteau, la star des années 70, l'ange vert, comme on l'appelait.
C'est joli. Et voilà maintenant le baby-foot mixte, une initiative pas si anecdotique que ça, à quelques jours du lancement de la Coupe du Monde de football féminin en France.
11 figurines d'hommes côtoient 11 figurines de femmes. À l'origine de ce concept, une ancienne joueuse internationale dans les années 80, pionnière dans le combat pour l'égalité entre les sexes dans le sport, sur les terrains et donc maintenant sur les baby-foot, Jérôme Val.
Une figurine de 13 cm pour 110 grammes et pour la première fois, une silhouette féminine avec ses formes et une tenue de footballeuse.
Elle est magnifique, elle est très très belle, elle a une belle allure, elle est sportive, en fait elle est normale quoi.
Cela fait des décennies que Nicolas Barre a fait de l'égalité homme-femme son combat. Et pour cette ancienne joueuse qui la première a fait condamner un club pour sexisme au début des années 2000, il n'était pas question de proposer un baby-foot uniquement féminin.
Les filles et les garçons ensemble, ça avait un sens fondamental pour moi, c'est que les filles arrivent, mais les garçons continuent à jouer.
Ingrid Bergalia est la directrice de Bonzini, fabricant de baby-foot installé en Seine-Saint-Denis.
On avait créé une joueuse en 2006, mais à l'époque, elle était un peu plus à l'effigie de la sportive tenniswoman plutôt que la footballeuse. Pour nous, c'était déjà un projet qu'on avait en tête de créer une nouvelle joueuse, mais c'était devenu effectivement une évidence de rentrer dans ce projet avec elle.
Cette initiative est loin d'être symbolique pour Nicolas Barre. Un baby-foot peut avoir plus d'impact qu'un long discours.
Ça fera parler et ça fait changer les regards. Et si on continue à dire c'est normal, c'est pas un problème, c'est le but à atteindre. C'est que personne ne se rende compte de rien finalement. Voilà, et que ce soit plus un combat.
Ce baby-foot mixte sera commercialisé après la Coupe du Monde.
Oh, ça c'est une gamelle ça. Le baby-foot mixte, Jérôme Val, mixte ça veut dire des équipes mixtes, ce ne sont pas les filles contre les garçons.
On a bien compris Denis, merci de nous réexpliquer. À 3 jours de la clôture du Festival de Cannes, les stars Brad Pitt et Leonardo DiCaprio ont reçu un accueil enthousiaste sur la croisette aux côtés de Quentin Tarantino pour le film Once Upon a Time.
Sont-ils passés tous les trois prendre un cocktail au bar du Majestic après la diffusion du film ?
Eh bien, on va demander au chef barman du mythique hôtel de Cannes. Il sera avec nous tout à l'heure aux alentours de 13h20. L'italien Emanuele Balestra, auteur du livre Majestic Cocktail, va peut-être nous donner une recette, ce sera dans quelques minutes.
Après Cannes, on fait un bond en arrière de quelques années sur les traces du Minitel et puis on visite le plus petit village fortifié de France. Il est en
Occitanie.
Bravo, voilà la météo du jour.
francebleu.fr. Tout France Bleu. Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr.